Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Anas Wakri, professeur affilié à l'ESCP,
Guillaume Poitry. Et chercheur chez Square.
Pardon ?
Et chercheur chez Square.
Et chercheur chez ?
Square Research Center, le Square Management.
C'est quoi ?
C'est le centre de recherche qui fait partie d'un cabinet de conseil qui s'appelle Square Management.
D'accord.
Donc je suis et prof affilié à l'ESCP et chercheur là-bas.
Je le rajouterai dans ma petite liste pour la prochaine fois.
Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone, auteur de Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action chez Stock. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Il y a eu pas mal de réactions à tout. On a pas mal digressé, on est parti de Biogarant pour arriver sur le reste à charge progressif, l'idée de basculer un peu de financement de la santé sur l'impôt, en fait. Alors, TVA, CSG. Voyons, il y a cette réaction, qu'il soit européen, américain, indien ou chinois, s'il y a un repreneur étranger, il est étranger, me dit cet auditeur, qui d'ailleurs écrit aussi, alors c'est un peu la sécurité socialiste, écrit-il encore, est tellement pourrie qu'en plus des pénuries de médicaments causées par des prix réglementés, l'État oblige les citoyens à prendre une seconde assurance santé. Le reste à charge progressif, m'écrit Voxide, bien sûr que c'est possible.
Oui, bah, oui. Notamment avec les outils de Web Street, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, avec la blockchain, etc., ça va être de plus en plus possible. Et juste pour terminer là-dessus, effectivement, alors, je n'ai pas dit que c'était uniquement les retraités doivent évidemment financer la dépendance et tout le reste, parce qu'effectivement, on sera tous concernés. Donc, ce n'est pas la question.
Si
la question,
vous dites ça, vous allez m'énerver,
les auditeurs. Il y a encore... Non, mais justement, c'est une question, comme vous l'avez justement dit, de solidarité intergénérationnelle. Donc, aujourd'hui, il y a un point d'écart de CSG.
Oui.
Donc, je reprends voilà les chiffres. C'est un point de CSG sur les revenus des retraites, c'est 3,3 milliards. Donc, ça fait exactement la moitié de l'écart qu'on a sur les cotisations sociales patronales par rapport aux pays de la zone euro. Voilà, si on prend ces 6 milliards, ça représente un peu plus cet écart-là, 71 milliards, pardon. Et donc, si on regarde, ça permettrait de financer une partie de l'écart, donc de rendre les entreprises françaises plus compétitives, et surtout d'assurer plus de financement pour, effectivement, la branche dépendance, qui est vraiment critique aujourd'hui. Et aussi, il y a une question d'éducation et de civisme en pleine actualité aujourd'hui avec les violences à l'école, etc. Et un
si
peu
on
partout.
Parlait des dépenses publiques, monsieur Dose,
oui, pareil,
les 1600 milliards de dépenses publiques et donc 10 milliards d'économies par rapport à 1600 milliards
de dépenses
publiques.
Mais on va le faire tout de suite, alors, parce qu'effectivement, là, il y a le New Deal de la compétitivité. Juste, Isabelle m'écrit, ne pas oublier que les retraités payent leur mutuelle complémentaire beaucoup plus cher que les actifs.
Bon. Ouais.
Le message est passé en tout cas, Anna. Je regarde. Bon, mais parlons-en, tiens. Je vais commencer avec vous, Guillaume. Vous avez un déficit de temps de parole depuis le début de l'émission.
Merci beaucoup.
Hein ?
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de compteur comme dans les débats politiques, mais c'est mon intuition que vous avez parlé moins que les autres. On a évoqué l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques sur la trajectoire 2027 de la France, qui a été validée en Conseil des ministres avant d'être envoyée à Bruxelles. On a toujours 1% de croissance prévue. Il y a quand même pas mal d'institutions qui sont plutôt autour de 0,6-0,7. Hein. Ça commence à être un peu 0,7, le consensus, je pense, par là. Et puis là, on a fait les 10 milliards. Puis on refait 10 milliards. Et j'étais avec le Premier ministre hier sur BFM TV. Et je lui dis, vous courez comme des morts de faim derrière les milliards d'euros. J'ai jamais vu, à peine l'hiver terminé, des montagnes d'économies sortir de terre comme ça, de manière absolument incroyablement imprévue, voire... quand même assez peu préparé, à en croire notamment l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques. La situation est sans doute préoccupante. Comment vous regardez cette histoire ?
Oui, en fait, 10 milliards, ça, on ne se rend pas compte de ce que c'est, mais 10 milliards dans 1600 milliards de dépenses
publiques.
C'est la dépense
publique, toutes dépenses confondues. Hein.
Nos 57% de PIB, ce qui nous met numéro 1 au monde. Au monde. Il n'y a pas autant, aucun pays au monde qui dépense autant d'argent public rapporté à sa production économique. Non, je pense que le sujet, il n'est pas d'y aller coup par coup de 10 milliards, etc. Le sujet, c'est de faire un véritable plan d'économie de la dépense publique en réformant l'action publique, c'est-à-dire en simplifiant l'action publique, en regardant tout ce que nous coûte cette action publique, en diminuant le nombre d'autorités, très clairement, ce qui permettra de remettre un grand coup de boost dans l'économie, ça c'est sûr.
C'est ce que disait Gabriel Attal hier.
Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que le système aujourd'hui ne peut pas être géré à coup de 10 milliards. Simplement parce que le déficit de l'État, c'est 160 milliards d'euros aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que 160 milliards ? Personne ne se rend compte de ce que c'est que 160 milliards. 160 milliards, c'est 5 000 euros par an et par foyer français. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le déficit de l'État, la surdépense de l'État, je dirais même le dopage que l'État amène en tirant sur la dette à l'économie, représente un 13e et un 14e mois de dépenses possibles pour chaque foyer français. Est-ce qu'il y a quelqu'un de raisonnable qui peut penser qu'on peut, quelque part, subventionner un 13e et un 14e mois en tirant sur la dette, c'est-à-dire en fait en tirant sur une dette qui devra être assumée par les générations d'après. Et là, on est dans l'intergénérationnel.
Tout le monde dit que ça n'est pas tenable, mais nous continuons à le faire. Pierre Moscovici l'a dit il y a 24 heures que c'était pas tenable. Bruno Le Maire ne cesse de dire que ça n'est pas tenable.
La dette,
et on continue.
La dette publique en Allemagne va baisser.
Elle baisse.
La dette publique en France va augmenter. Un jour, cet écart ne sera plus supportable pour les électeurs allemands. Et ce jour-là, ils vont débrancher la prise sur laquelle nous tirons tous les jours, qui s'appelle l'euro et qui s'appelle le grand parapluie pour les marchés financiers. Aujourd'hui, la France ne peut pas faire défaut parce que l'Allemagne est là.
Et la BCE.
C'est tout. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix que de réformer l'État, que de réformer la dépense
publique.
Là, c'est
pas de la réforme.
Massivement.
C'est du coup de rabot.
Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai hélas peur que ça ne peut venir que d'une contrainte extérieure massive, c'est-à-dire d'une grande crise économique, une grande crise de confiance des marchés financiers. Vous savez, les marchés financiers, sur les faillites, moi je suis patron, je suis chef d'entreprise, et tout au départ de ma carrière, j'ai travaillé dans l'administration judiciaire. Donc j'ai vu des entreprises en faillite. Je peux vous dire que la plupart des entreprises en faillite ne se voient pas venir en faillite. C'est-à-dire, elles ont confiance, le banquier est là, elles ont des lignes de crédit, elles tirent dessus, elles font du factoring sur leur truc, et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Parce que, à un moment donné, le banquier, il dit, écoutez, monsieur, c'est fini. Ça s'arrête. Et ça ne prévient pas. Eh bien, les marchés financiers, vis-à-vis de la dette française, elle ne préviendra pas.
Too big to fail.
Au revoir.
Too big to fail. Xavier, par rapport à... Bon, vous pouvez réagir à ce que dit Guillaume Potter, mais sinon sur ce... comment vous lisez en fait les 4 premiers mois, même pas 4 premiers mois de l'année, où on a sorti à marche forcée 10 plus 10 milliards d'euros d'économie. Moi j'ai trouvé ça... J'ai pas trouvé que c'était le signe d'une économie qui était en bonne santé. J'ai trouvé que c'était une action publique qui n'était pas forcément rassurante. Ce que le Premier ministre hier, évidemment, dans son rôle... a plutôt démenti en disant à peu près à l'inverse. Au contraire, me dit-il, nous sommes très responsables, car nous voyons que les recettes ne sont pas au rendez-vous, donc nous anticipons et nous faisons tout de suite ce qu'il faut. Et donc, au contraire, nous sommes, contrairement à ce que dit le Haut Conseil des Finances Publiques, crédibles, et nous sommes, contrairement à ce que dit le Haut Conseil des Finances Publiques, cohérents avec notre trajectoire que nous engageons auprès des Européens, car nous maintenons, et il l'a maintenu, l'objectif de rester sous les 3%, ou de repasser sous les 3% en 2027 à 2,9% de déficit. Comment vous regardez cette situation, Xavier ?
Alors, je vais regarder cette situation d'une façon assez critique. Je n'aurai pas les mêmes critiques que Guillaume. En fait, même un point de vue sensiblement différent. Les chiffres qu'a donné Guillaume sont exacts, ils sont effectivement, et c'est important d'avoir la mesure de ces chiffres. Maintenant, il faut se rendre compte d'où viennent ces chiffres, hein, quand on parle de cette dépense publique et de ce déficit. Aujourd'hui, cette dépense publique et ce déficit, ils viennent de la crise sanitaire, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
50 ans de budget dans le rouge.
Non.
D'accord, Nicolas, ça a été très lourd avec
quel était le déficit public avant, en 2019?
Je sais, on est même repassé sous les 3%.
Voilà, donc on était sous le seuil des 3%, on s'est retrouvé avec un déficit considérable, une dépense publique supplémentaire, en tout cas par rapport aux recettes qui elles-mêmes se sont effondrées, qui vient du quoi qu'il en coûte, de ces entreprises dont on a permis d'éviter la faillite, de ces ménages dont on a maintenu le revenu, dont certains d'ailleurs probablement de façon excessive puisqu'ils ont épargné et qu'ils ont accumulé une épargne importante. Mais on a permis tout cela, et tout ça, effectivement, c'est dans des ordres de grandeur qui sont de un 13e mois, un 14e mois, un 15e mois, un 16e mois même en 2020. Donc oui, c'est ça le soutien qui a été apporté à l'économie. Alors après, est-ce que la France risque la faillite ?
Non.
Non, on peut pas le dire. Parce que, alors on peut dire, hein, ça va venir, la sanction des marchés financiers, et de toute façon ça prévient pas, et donc justement, le fait que ce soit le calme absolu, nous indique que la tempête va être terrible. Bon, je prends l'argument, mais ceci étant dit, c'est pas une démonstration. C'est un argument, on peut s'en inquiéter, mais c'est pas une démonstration.
Ce qui est vrai, c'est que ça ne prévient pas.
Alors, ce qui est vrai, c'est que ça ne prévient pas.
Quand ça prévient, c'est le jour J et ça va vite.
Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde l'histoire financière depuis 2008, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus un actif sûr sur la planète. Et en 2008, la crise de 2008, c'est on fait des actifs sûrs à partir de produits synthétiques. Et l'effondrement de ça a fait que il y a un déficit considérable d'actifs sûrs depuis 2008 sur la planète. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Les seuls actifs sûrs qui restent.
Les obligations souveraines, l'énergie.
Alors, la dette publique allemande.
Oui. Du coup, et par tout défaut, c'est la française.
Mais c'est pas par défaut. C'est pas par défaut. C'est là que vous faites une erreur de raisonnement. C'est là que vous considérez que la France jouit d'un privilège qui serait indu. Mais non. Non, c'est pas un privilège indu.
C'est pas un privilège indu, c'est un parapluie extraordinaire, comme disait Guillaume, l'euro. Si la France sortait de l'euro, ce serait juste la cata, et vous le savez très bien.
Mais si la France sortait de l'euro, ce serait la cata, mais pour qui ?
Pour nous. On placerait
plus. Et que pour nous, vous pensez ?
Mais pas que pour nous. Bien sûr, mais bien sûr que non.
Mais non, mais quand la Grèce, quand on a évoqué l'idée que la Grèce pourrait sortir de l'euro, qu'est-ce qui s'est passé ?
On a eu peur que
l'économie européenne s'est effondrée. L'Allemagne a même dit, non, mais en fait, on va pas le faire.
On va pas faire quoi ?
On va pas faire la sortie de la Grèce de l'euro parce que les conséquences pour l'Allemagne, pas pour la Grèce, pour l'Allemagne, sont telles que en fait c'est inacceptable. Mais même le FMI, les Américains ont dit mais non, en fait, il faut pas que la Grèce sorte de l'euro. Ils l'ont dit. Tout le monde l'a dit.
Oui, ils ont eu un plan, ils ont eu une cure de désintoxication à la dépense publique,
qui a été
imposée par l'extérieur.
Ok, enfin, ils ne sont pas sortis de la zone euro.
Ça a bénéficié quand même à l'intégration.
Mais donc, ce n'est pas les marchés financiers qui vont imposer l'histoire. Parce que, vous voyez, dans ce que dit Guillaume, c'est oui, mais les marchés financiers, à un moment, ils vont nous rattraper. Mais non, c'est exactement le contraire, en fait. On a mis en place la BCE et l'euro pour empêcher que les marchés financiers dictent leurs lois. C'est ça. Le fondement
mais alors,
de l'Europe.
Jusqu'où est-ce
aujourd'hui.
Que vous voyez l'écart ? Moi, j'ai une question à vous poser, alors, parce que je ne suis pas économiste. Jusqu'où est-ce que cet écart entre les pays qui sont des pays sobres de dépenses publiques, des pays avec des budgets à l'équilibre, traditionnellement, donc ça veut dire des services publics qui se serrent la ceinture. En Allemagne, on n'est pas là à faire des grands plans de dépenses publiques, des ronds-points qui ne servent à rien, à démultiplier les autorités, etc. Ça fait longtemps qu'on fait gaffe. Okay. Bon, nous, on ne fait pas gaffe. Okay, ce n'est pas dans notre culture. On ne fait pas gaffe. Donc, on y va par milliards d'euros. Le métro du Grand Paris, c'est pas un prototype de gare, c'est autant de gares que de stations du métro du Grand Paris Express, avec des architectes que je connais bien, qui se sont éclatés et qui ont fait des œuvres absolument magnifiques. Donc ça coûte un pognon de dingue.
Et bas carbone.
Non mais nous on aime bien, la France, on est le pays de la dépense publique. Eux, ils sont le pays de la sobriété. Jusqu'où peut aller cet écart au sein d'une Union européenne qui est quand même une union de convergence
de situation.
Est-ce qu'il y a un moment donné, est-ce qu'il y a une limite ? Je pose la question.
Pas trop long, Xavier, pour que la parole...
Non mais pas trop long, mais je pense que ça c'est... C'est une question fondamentale et extrêmement intéressante. Parce que, en fait, depuis 2008 et 2012, il s'est ouvert un espèce de jeu qui peut être un peu pervers en Europe, où, effectivement, il y a ces visions qui s'affrontent, qui avant était quand même plutôt résolu avec l'idée que oui, il fallait converger, que donc oui, il y avait quand même une discipline budgétaire à imposer. Mais là, aujourd'hui, effectivement, un État dépensier, ça peut être la France, ça peut être l'Italie, ça peut être demain l'Espagne, peuvent se mettre en position, effectivement, d'exercer une forme, d'avoir un levier sur les États plus sobres. Et comment l'équilibre politique et économique de tout ça va se dérouler ? Ça, bien malin qui peut le dire. Mais
vous êtes fort parce que vous répondez pas à ma question.
Mais si, je réponds. Je vous dis, je vous dis.
Cette personne n'est capable.
Il n'y a pas de limite.
De déficit.
Parce que je veux dire à la France, on vous sort de l'euro, on vous met sous le contrôle de ceci ou de cela. C'est une menace qui ne peut pas fonctionner. Parce que si la France dit OK, on sort,
c'est la fin de l'Europe.
Non, mais c'est vrai que limite.
Et ben voilà.
Anna.
Le problème, c'est qu'on peut pas résoudre ce problème avec des menaces réciproques en disant attention, on va te sortir.
C'est impossible effectivement. On peut pas faire ça. De fixer des seuils de dette.
Et donc,
ou au-delà, tout le monde trépasse.
Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de limite.
Non, mais si. Mais
je ne pense pas qu'il n'y ait pas de limite.
Alors, Anna Squakri, après, on avance
justement
parce qu'il y a plus de 12 minutes.
Pour remédier à ce problème-là.
Une vision plus fraîche
de mais non, mais c'est, parce que, justement, on n'est pas. La zone euro, aujourd'hui, est une union monétaire imparfaite. Ce n'est pas une zone monétaire optimale. Pourquoi ? Justement, parce que nous n'avons pas encore l'union financière, d'où la nécessité absolue d'avoir une union des marchés de capitaux, qui sera un des piliers de l'union financière, de manière à ce qu'on puisse avoir une synchronisation des cycles également des différents pays européens, et donc de faire en sorte que la politique monétaire qui est commune à l'ensemble des États qui aujourd'hui ont des cycles différents et qui explique qu'il y en a en surplus, d'autres en excès, etc., en déficit, etc., donc qu'il y ait ce même instrument de la politique monétaire qui puisse permettre justement d'ajuster ces cycles-là. Et donc là, ça permettra d'avoir une trajectoire qui soit cohérente. Justement,
ça sera pas une bonne nouvelle pour les finances publiques françaises.
Anna Squakri, juste un mot là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, mais vous pensez que le fait d'harmoniser les règles en Europe dans le secteur financier,
une union monétaire pleine et parfaite réalisée au sein des pays européens et de la zone euro aujourd'hui, oui, ça permettra de réduire le déficit, effectivement, français.
Je ne suis pas hyper convaincu, parce que l'union des marchés de capitaux suppose une harmonisation de normes financières, suppose une harmonisation de la fiscalité des produits de l'épargne.
Oui, tout à fait.
Mais cet acte-là, complètement aujourd'hui imparfait, en quoi cet acte-là pourrait gommer les grands écarts budgétaires et de déséquilibre de comptes publics qu'il y a entre les États.
Parce qu'il y aura une liquidité beaucoup plus abondante, notamment pour les investissements et justement sur les marchés, et donc pour tout ce qui est aujourd'hui financé en partie par de l'argent public et qui donc fait du déficit. Et donc c'est l'union financière en elle-même, c'est l'union des marchés de capitaux est une des briques de l'union financière. Mais effectivement, dans la mesure où on n'a pas d'une zone monétaire qui est optimale en Europe, on observe effectivement qu'il y a que les cycles ne sont pas synchronisés entre les pays, alors qu'on a une politique monétaire qui est commune. Donc forcément.
Donc en fait, vous nourrissez beaucoup d'espoir derrière l'union des marchés.
Oui, tout à fait. Derrière l'union européenne.
On a fait l'Europe fédérale monétaire et vous me dites qu'il faut faire l'Europe fédérale financière.
Oui, parce que ça ne peut pas marcher. Effectivement, ça fonctionne mal parce qu'on a uniquement la monnaie commune sans avoir véritablement l'union financière.
Est-ce que vous partagez l'optimisme d'Anna Squakri sur cette fameuse UMC qui est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas très très inscrit dans l'opinion mais qui fait partie d'une brique essentielle?
Pas du tout.
Alors allez-y, Xavier Tabot.
Non, mais pas du tout. Parce que
on essaye de garder 3-4 minutes pour le salaire décent. Hein.
Non, mais là, très rapidement, la question qui est posée, c'est celle de la gestion des finances publiques. Donc, c'est pas l'union des capitaux qui va résoudre la gestion des finances publiques. Eh, pas
en
du tout.
Générale,
donc en fait, la seule chose qui pourrait la résoudre, c'est un fédéralisme budgétaire.
Oui.
Voilà. Alors,
oui,
est-ce qu'on est
l'union financière.
Non, l'union financière des capitaux, c'est pas du tout le fédéralisme budgétaire.
Une union financière dont une des briques.
Ah oui, ce serait aller encore plus
bien
loin.
Bien sûr.
Oui, mais alors là, à ce moment-là, vous avancez un peu caché quand même, parce que nous parler de l'union des capitaux pour nous dire en fait c'est le fédéralisme budgétaire. Bon,
c'est
moi je veux bien, mais aujourd'hui le fédéralisme budgétaire, c'est pas un objet politique très très appétissant. Voilà. Un dernier point aussi pour rassurer Guillaume.
Rassurons-le.
Il s'inquiète de quelle est la limite, mais je veux dire, s'il veut regarder quelle peut être la limite, il n'a qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis. C'est combien le déficit budgétaire aux États-Unis, Guillaume?
C'est beaucoup. Sauf que
c'est pas beaucoup.
Ils ont beaucoup moins de pression fiscale. Ils ont beaucoup moins de pression fiscale et ils ont la chance d'avoir de la croissance économique.
Non. Mais
donc quand on fait du déficit et qu'en face il y a de la croissance économique, les amis, ça fonctionne. Quand nous on fait 5% de déficit et qu'on a moins de 1%, vous êtes à 0,4 d'après ce que j'ai compris tout à l'heure.
Non, ils sont au-dessus.
0,5.
Vous êtes à 0,5% de croissance de PIB, eh ben on a un autre problème. C'est-à-dire qu'on laisse derrière de la dette et on n'a pas de la croissance économique, de l'enrichissement.
Regardez attentivement les États-Unis, Guillaume, vous allez voir, vous allez trouver plein de motifs pour vous rassurer.
Mais c'est vrai que les chiffres américains sont stratosphériques.
Mais non, mais ils ont remplacé une absence d'impôts.
Oui.
Nous, on est surimposés, les amis.
Ça,
c'est quand même un truc. Ils sont
en
position très faible.
La véritable exception aujourd'hui, c'est la stratégie allemande.
Oui.
C'est ça la véritable exception. C'est ça l'anomalie aujourd'hui. C'est
la stratégie allemande. Partagée par la Hollande, par un certain nombre de pays, bien sûr.
Qu'est-ce que vous mettez dans stratégie allemande, Guy?
Mais la stratégie allemande, c'est d'arriver à réduire son déficit, alors qu'on sort d'une crise majeure. Enfin, je veux dire, l'Allemagne est quand même en première ligne en ce qui concerne les relations avec la Russie. L'Allemagne n'a pas investi dans son infrastructure, l'Allemagne n'a pas investi dans son armée, dans sa défense. L'Allemagne est dépendante du gaz russe, l'Allemagne n'a toujours pas fait sa transition. L'Allemagne n'a pas de croissance. Elle est en récession, l'Allemagne.
Elle l'accepte. Là, c'est ça qui est dingue, on l'accepte politiquement de mettre l'avion en piqué. C'est ça l'Allemagne. En France, dès qu'on commence à s'approcher du 0% de croissance, on se dit ça va être la révolution.
Mais oui, mais
vous nous dites, on va devoir baisser.
Vous nous dites qu'il faut qu'on suive l'exemple allemand. Moi, je vous dis, mais si, il faut qu'on arrête cet écart de dette entre la France et l'Allemagne.
Oui, je pense.
C'est ça ce que j'appelle suivre l'exemple.
Je pense qu'il faut arrêter de dépenser plus que ce qu'on gagne.
Pour suivre l'exemple allemand, il faut faire ce que font les Allemands, c'est-à-dire la dépendance au gaz russe, pas d'investissement dans les infrastructures, pas d'armée.
On a le nucléaire.
Xavier, parce que
la liste est immense,
ce qu'on fait les Allemands, un modèle mercantile. Aujourd'hui, il est en échec à cause de la situation, mais ils ont fait de l'industrie.
Ils ont fait de l'industrie qui dépend de la Chine.
Voilà.
Dans un monde aujourd'hui où qu'est-ce qui se prépare avec la Chine, une crise géopolitique majeure où on aura beau dire que c'est nos partenaires et qu'on les aime, la Chine, leur stratégie, c'est quand même plutôt d'être totalement isolée.
Sur l'union monétaire, ce qui nous simplifierait la vie, nous entreprises, c'est quand même malgré tout d'avoir
l'union des marchés de capitaux. Vous voulez dire
L'union monétaire européenne. C'est-à-dire de dire
existe l'union monétaire.
Les fameux marchés de capitaux unifiés. Là, j'ai vu l'ancien
Enrico Letta,
premier ministre. Dire qu'il veut un marché de titrisation européen, il veut organiser tout ça, etc. Là où il a raison, c'est qu'en fait, malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez emprunter d'une banque allemande, il n'y a pas de problème. La banque allemande peut venir, etc. Mais une fois, on est dans chaque pays surrégulé avec des surrégulations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Oui.
Donc, en fait, vous avez à chaque fois des autorités qui en fait, empêche et limite cette circulation de capitaux, qui la rendent plus difficile. On a vu ça quand un certain nombre de banques ont dû se répatrier parce qu'elles ont dû quitter la Grande-Bretagne. Et là, elles ont fait des benchmarks pour savoir s'ils allaient aller au Luxembourg, s'ils allaient aller en Allemagne, s'ils allaient aller en France. Bon, assez peu sont allés en Belgique. Mais c'est extrêmement compliqué. Si on pouvait simplifier simplifier ça en disant le métier de l'asset management, le métier du prêt, le taux de l'usure, etc., c'est quelque chose qui est pan-européen, je pense qu'on gagnerait.
C'est l'idée. Je pense pas qu'on ira jusqu'au fédéralisme budgétaire, mais
si on pouvait avoir une fiscalité de l'épargne normalisée, si on pouvait dire la flat tax, elle est à l'échelle européenne, ce serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde.
Alors justement, effectivement, donc il y a un aspect de fédéralisme au moins fiscal sur le plan fiscal, sur la fiscalité
de l'épargne,
notamment de ces produits et de l'investissement, parce que justement dans le projet de l'UMC aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'aujourd'hui, il y a effectivement, pour les investissements transfrontaliers, effectivement, ils sont taxés plusieurs fois, puisqu'il y a une exonération à la source dans le pays d'origine, et ensuite, là où effectivement l'investissement arrive. Donc déjà, ce serait de supprimer ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Ensuite, aujourd'hui, nous n'avons pas d'assiette qui soit consolidée, c'est-à-dire que, par exemple, on a sur le crédit bancaire, on a la dette des entreprises qui est défiscalisée, les intérêts, mais alors que les capitaux propres, ils sont aujourd'hui taxés trois fois. On les a sur l'IS, sur les dividendes et les plus-values. Donc là, l'idée, ce serait d'arrêter ça, de le mettre au même niveau, de faire trois fois, pour stimuler justement l'investissement sur les marchés obligataires, sur les marchés actions des entreprises.
C'est dans l'UMC, ce que vous me
décrivez ? Non. C'est dans le projet. Si, c'est dans les projets, quand on lit vraiment, notamment d'excellents papiers là, de Olivier Gersan, là, etc., dans la revue financière, c'est dans les idées. Ça ne veut pas dire que ça va être
idées.
Accepté
non,
politiquement, mais c'est dans les propositions avancées.
Ça, c'est pas de l'union des marchés capitaux. Ça, c'est de l'harmonisation fiscale.
Et
Et
ça s'inscrit dans le projet, dans les suggestions qui ont été faites. Ça a quand même commencé avant la commission Juncker, etc., depuis 2014, ces études-là, parce que ça a été repris. Il y avait le projet qui s'appelle AQIS et qui s'appelle aujourd'hui BEFIT, B-E-F-I-T, pour aussi avoir une consolidation justement de l'IS au niveau des pays européens. Donc c'est quand même la marche tout ça vers une véritable union financière qui pourrait
l'IS
permettre
français,
de rendre l'IS l'Europe une zone monétaire optimale et une puissance compétitive.
Je pense que vous nourrissez beaucoup d'optimisme sur ce que vous appelez l'union financière. Je crains que...
Beaucoup d'optimisme sur l'union européenne.
Je crains que l'union des marchés de capitaux soit quelque chose de beaucoup plus restreint. Parce que là, tel que vous me le décrivez, je pense qu'on n'y arrive pas.
Parce que c'est le pied dans la porte, si je puis dire.
Oui, le pied dans la porte.
Et il y a des briques qui permettent d'aller étape par étape vers la véritable union financière.
Aller vers la véritable union financière.
Moi, je suis d'accord avec Anna. Moi, je crois à l'Europe et je suis
optimiste. Mais vous
croyez
à cette union financière qui,
et je crois qu'il faut...
qui crée une sorte de parfum de fédéralisme que tout le monde considère comme
inaccessible. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est absurde.
La situation, elle est absurde, mais après, l'excès de naïveté, à un moment donné, ça peut quand même conduire à des catastrophes. Donc, si on veut harmoniser la fiscalité en Europe, par exemple sur l'IS... c'est pas en 10 ans on fait l'union de capitaux et puis ça va venir parce que c'est le pied dans la porte, etc. C'est un problème qui est quand même beaucoup plus sensible que ça. Aujourd'hui, la fiscalité, c'est la prérogative des parlements nationaux. Ils n'ont pas l'intention de l'abandonner. Les décisions sur la fiscalité sont prises à l'unanimité au sein de l'Europe. Et donc ça veut dire que dès que vous avez un projet, vous êtes obligé de faire des concessions invraisemblables pour arriver à le faire avancer. Donc le coût de ces projets est délirant, au point d'arriver à produire des situations qui sont parfois pires que ce qu'on veut résoudre. Donc, si on veut avancer sur ces questions, il faut le faire quand même d'une façon qui soit transparente. Je vous rappelle, on est en démocratie, on peut pas mettre le pied dans la porte et dire ça va finir par se dérouler.
Non, mais les choses...
Il faut le faire de façon transparente, il faut faire en sorte d'avoir l'accord de tous les parlements nationaux, et il faut en fait mettre fin à la règle de l'unanimité sur les décisions fiscales en Europe. Mais ça veut dire de revoter un traité européen. Et là, je vous dis bonne chance.
Ou de faire une mini-Europe comme le proposait Laurent Wauquiez, ce qui n'était pas
une mini-Europe,
c'est l'esprit européen.
Le problème, c'est que propose Enrico Letta de faire
une mini-Europe.
Quand vous dites mini-Europe, c'est que vous faites une
8.
Une Europe, pays. Une Europe avec les pays
non, mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop...
de 57 à 85, quoi.
Oui, vous faites l'Europe et avec ceux qui, a, ceux qui sont réellement
plus marchands. Mini-Europe, ça ne vole pas, votre histoire. Hein.
C'est, pourquoi
mais d'abord parce que...
Je reprends le Benelux,
d'abord parce que
ça
ne
vole pas.
Mais oui, non, mais d'abord, on a un euro, une monnaie unique, sur un ensemble de pays.
Alors,
leur dire, non, mais vous n'êtes pas dans la, par exemple, dire à la Grèce. Vous n'êtes pas dans la mini-Europe.
Il y a des gens qui utilisent le dollar et qui ne sont pas américains.
Non, mais vous n'êtes pas dans la mini-. Oui, non, mais c'est.
S'ils veulent l'euro, ils veulent l'euro.
Le projet européen, c'est que les pays qu'on a pris, ils sont dans le projet européen et ils sont traités également. Dire aujourd'hui, on va faire une mini-Europe, c'est une espèce de fantasme qui va conduire à un désastre, c'est-à-dire le désastre de décomposer l'Europe telle qu'elle existe.
Je pense qu'on peut être plus intégré sur 7-8 pays qui sont réellement convergents, parce qu'en fait, on voit qu'il y a quand même
en tout cas, on peut,
les derniers entrants.
L'histoire que vous racontez, c'est il faut qu'on recommence tout le processus de construction de l'Europe, qu'on reparte en 1956, et que là, on soit beaucoup plus limitant dans le nombre de pays qu'on intègre. Mais je suis désolé, réécrire l'histoire, c'est pas faire l'histoire.
J'aime bien le...
Souveraineté compétitive, ça pourra se faire qu'au niveau européen.
Non, mais il faut arrêter de dire que ça ne peut que se faire. Il faut dire comment on fait.
C'est fini.
Aujourd'hui.
Oui,
sinon, c'est un excès de naïveté. Et cet excès de naïveté ne fait que nourrir les oppositions.
J'aime bien l'audace d'Anna Swakley quand même.
Étape par étape.
Alors, il y a un peu des. Il y a un peu de rêve, mais j'aime bien l'audace d'Anna.
Ok. Bon,
moi aussi.
En attendant, il a les pistes claires, Xavier Tabot, parce qu'hier, le Luxembourg a dit « Ouais, l'UMC, très très bien, mais vous touchez pas à l'IS. Hein. »
Ils ont un IS plus élevé qu'en France.
Je vous rappelle, c'est la taille du 14e arrondissement.
Oui, c'est
le 14e arrondissement peut bloquer, par la loi de l'unanimité, les réformes fiscales en Europe, le 14e arrondissement.
On débouche le champagne en direct le jour où la loi de l'unanimité tombe. D'accord.
C'est un grand pays.
Bon, Xavier Tabot.
Grande principauté.
On se retrouve lundi.
Moi, je suis Luxembourg.
À 9h. À 9h, lundi.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.